Nous voici arrivés au chapitre 4 de Jean, où nous allons faire connaissance avec une faune peu recommandable, les religieux orthodoxes de l'époque. Je commence à lire. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Verset 23. Selon les autres évangiles, Jean-Baptiste fut mis en prison. Il s'ensuivit que la popularité soudaine de Jésus, manifestée par le nombre grandissant de ses disciples, attira l'attention des pharisiens. La pègre religieuse le surveillait. Étant donné qu'il œuvrait selon l'horaire de Dieu, il savait comment son ministère se terminerait. Il était venu pour accomplir la volonté de son Père. En conséquence, et jusqu'à ce que son heure soit venue, il lui fallait agir avec prudence. C'est pour cela qu'il se retira afin d'éviter un conflit trop tôt dans son programme. Il quitta alors la Judée pour remonter en Galilée dans le nord du pays. Je continue. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. Versets 4 et 5. Jésus aurait pu emprunter trois itinéraires différents. Le premier longe la côte méditerranéenne et évite les centres urbains. Il existe toujours, tandis qu'un autre passe à l'est, de l'autre côté du Jourdain. C'était cette route que choisissaient les Juifs parce qu'ils haïssaient les Samaritains. Mais Jésus choisit délibérément la troisième voie, la plus courte et surtout celle qui traverse la Samarie, afin d'apporter l'espérance à ce peuple méprisé, et surtout à une femme. En tant que sauveur du monde, il cherche les parias, les rejetés. À l'époque du Nouveau Testament, la Samarie était au centre de la Palestine, avec la Judée au sud et la Galilée au nord. Cette province n'avait pas d'existence politique propre. Elle était dirigée par un gouverneur romain. Ses habitants étaient de race mixte et leur religion était un mélange syncrétique de paganisme et de judaïsme. Il va sans dire que ces gens n'étaient pas cachers, pas purs aux yeux des Juifs. Je continue. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi, verset 6. L'apôtre Jean met autant l'accent sur le côté humain de Jésus que sur son origine divine. Le Logos, la parole éternelle descendue du ciel. Le Dieu de l'éternité a pris une forme humaine et est assis là, au bord d'un puits, afin de se reposer, mais surtout pour attendre quelqu'un. Je continue. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adresse à elle, « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Verset 7. Les disciples sont en ville pour faire les courses, ce qui dénote que Jésus ne partageait pas du tout l'opinion juive, comme quoi même la nourriture samaritaine était impure. Dans cette culture macho, c'était toujours les femmes qui allaient puiser au puits et qui portaient l'eau. Habituellement, à cause de la chaleur, elles y allaient le soir. À cause de sa situation particulière, cette femme ne souhaitant pas rencontrer du monde, vient donc à midi sous un soleil de plomb. Surprise, un homme est assis là sur le puits. Comble des surprises, voilà maintenant que ce juif lui adresse la parole. À elle, Jésus fait là quelque chose de surprenant. Il s'adresse à une femme de Samarie qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Après s'être entretenu avec Nicodème, la crème, le docteur de la loi respecté, l'élite instruite, morale et religieuse d'Israël, Jésus engage maintenant la conversation avec une femme qui est au niveau le plus bas de l'échelle sociale de Palestine. Elle était méprisée et rejetée à cause de ses trois tares. D'abord, c'était une femme. Ensuite, elle était samaritaine, et donc une païenne ignorant la loi. Et en troisième lieu, elle était de petite mœurs. Le contraste ne s'arrête pas là. Nicodème a au moins eu le mérite de chercher à voir Jésus, tandis que cette femme était plutôt indifférente et désinvolte vis-à-vis des réalités spirituelles. Bien qu'aux antipodes l'un de l'autre, ces deux personnes avaient au moins une chose en commun. Toutes deux avaient besoin de naître de nouveau et de recevoir le pardon pour leurs fautes. Je continue. La Samaritaine s'exclama, « Comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains pour ne pas se rendre rituellement impurs. Verset 9. Avec Nicodème, qui était religieux jusqu'au bout des ongles, Jésus n'y est pas allé par quatre chemins. Il lui est rentré dans le lard et a élevé la conversation à un haut niveau théologique. Par contre, il adopte une toute autre approche avec cette pauvre femme. Il se montre doux et tendre. Il l'aborde non pas sur un sujet spirituel, mais là où elle vit, le besoin quotidien d'eau. Il se met dans la position basse du demandeur et lui demande une faveur. La Samaritaine est troublée d'entendre un juif lui demander à boire, car à cette époque, ça ne se faisait pas. Les préjugés interdisaient les conversations publiques entre un homme et une femme, entre juifs et samaritains et surtout entre étrangers. En fait, tout rabbin juif digne de ce nom aurait préféré de loin mourir de soif plutôt que de violer ces règles de bienséance. Curieuse et surprise, cette femme ne pouvait comprendre comment cet homme osait lui demander à boire, étant donné que les juifs n'avaient absolument rien à voir avec les samaritains. En fait, une loi rabbinique datant de 66 après Jésus-Christ, donc juste avant que les Romains ne détruisent Jérusalem, stipulait que les Samaritaines étaient toujours rituellement impures. En conséquence, tout juif qui buvait dans le même récipient que l'une d'entre elles devenait automatiquement impur. C'est exactement ce que Jésus se propose de faire. Il demande à boire de la cruche que cette femme utilise. On comprend mieux la stupéfaction de la Samaritaine qui, semble-t-il, refuse. Je continue. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 10. Jésus ne commence pas à disserter sur les droits de l'homme ou les vertus de la loi de Moïse. Il commence par parler de boire de l'eau, une activité banale, mais importante et familière à cette femme. Il éveille sa curiosité en élargissant le sujet, créant chez elle un intérêt et un désir de continuer cette conversation. Maintenant, Jésus lui adresse une énigme afin de l'amener à réfléchir. C'est comme s'il lui avait dit « Ton étonnement serait infiniment plus grand si tu savais vraiment qui je suis. Alors, c'est toi qui me demanderais à boire. » Trois questions intéressaient la Samaritaine. Qui est cet homme? Quel est le don de Dieu dont il parle? Et quelle est cette eau vive? L'eau vive était le terme utilisé pour de l'eau courante d'une rivière ou d'une source. Jésus l'applique au Saint-Esprit, l'agent de la nouvelle naissance. Je continue le texte. « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc ton eau vive? tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux. » Versets 11 à 12. Elle n'a pas compris le sens des paroles de Jésus, car elle pense qu'à l'eau qui est au fond du puits. Elle a au moins le sens pratique et aimerait bien savoir comment Jésus compte s'y prendre pour puiser sans rien. Elle se demande donc, qu'est-ce que cet étranger peut bien avoir de spécial? Elle ne peut concevoir que ce Juif qui se trouve devant elle soit plus grand que Jacob, l'ancêtre de la nation d'Israël. Mais au moins, Jésus l'a amené à s'interroger sur lui. Je continue. « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Versets 13 à 14. Jésus précise sa pensée tout en restant énigmatique. Cette eau, tirée du puits de Jacob, ne peut étancher la soif que pendant un certain temps. Mais celle que Jésus lui propose comble les besoins les plus profonds de l'homme. En outre, celui qui boira de cette eau vive aura en lui une fontaine intérieure. Il deviendra lui-même une source de la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus fait ici référence à l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Je continue. « Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. » Verset 15. À cause de son attachement aux choses matérielles, cette femme n'arrivait pas à saisir le langage spirituel de Jésus et le ramène à des notions matérielles. Elle aimerait bien posséder sa propre fontaine. Comme ça, elle n'aurait plus à venir puiser de l'eau d'un puits sous un soleil de plomb à te crever les yeux. Je continue. « Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. »« Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. » »« Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. » Versets 16 à 18. Étant donné qu'elle était incapable de saisir les vérités présentées par Jésus, celui-ci aborda de manière très terre-à-terre son problème fondamental. En lui demandant d'aller chercher un mari qu'elle n'avait pas, il veut lui montrer qu'il la connaît parfaitement. Il veut qu'elle reconnaisse qu'elle mène une vie de bâton de chaise. En disant « Ce que tu as dit là est vrai », la Samaritaine confesse que Jésus est au courant de tout. Elle a devant elle quelqu'un qui connaît son histoire matrimoniale et qui sait qu'elle vit à la colle avec un 6e homme. Les Juifs admettaient 2 ou 3 mariages. Si les Samaritains avaient les mêmes règles, cette femme devait être particulièrement mal vue. À cette époque, c'était les hommes qui décidaient de divorcer. Cette femme avait donc probablement été abandonnée 5 fois par ses maris successifs. Dur la vie. Je continue. « Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. » Versets 19 à 20. Cette femme a quand même évolué. Elle se rend compte que Jésus n'était pas simplement un quelconque rabbin juif qui s'était trompé de route et avait atterri là, vers ce puits. Comme il avait une connaissance surnaturelle, il devait être un prophète de Dieu. Mais au lieu de confesser ses fautes, la Samaritaine créa une diversion d'ordre intellectuel. Elle ne veut pas parler de sa vie privée et préfère noyer le poisson. Alors la voilà lancée dans la haute stratosphère. Ce prophète est-il capable de résoudre un vieux sujet de controverse entre les Juifs et les Samaritains? Ces derniers avaient bâti au 4e siècle avant Jésus-Christ un sanctuaire sur une montagne qu'on pouvait voir depuis l'endroit où se trouvait Jésus. Mais il avait été détruit par les Juifs en l'an 129 avant Jésus-Christ. La question se posait toujours, qui a raison et dans quel temple devons-nous donc aller adorer Dieu? Sur cette montagne ou bien à Jérusalem? Je continue. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Versets 21 à 22. L'expression « l'heure vient » fait allusion à la mort imminente de Jésus, laquelle allait inaugurer une nouvelle ère, celle de l'Église. Durant ce temps qui s'appelle aussi « celui de la grâce », et à cause de l'action du Saint-Esprit, l'adoration n'est plus centralisée ici ou là. Si l'atmosphère d'une église ou d'une cathédrale vous convient, c'est très bien. Si vous préférez le sommet d'une montagne, le pied de votre lit, le fauteuil du salon ou les bords d'un lac, c'est tout aussi bien. Ce n'est pas l'endroit qui compte, mais la façon d'adorer qui est importante. Bien que la Samaritaine ait essayé d'esquiver la confrontation avec sa vie passée, Jésus lui répond. Il tranche en ce qui concerne cette vieille querelle entre les Juifs et les Samaritains. Il prend parti contre ces derniers en disant qu'ils sont confus. Ils adorent bien le vrai Dieu, mais sans le connaître. Il précise également que c'est Israël, le peuple élu, car c'est de lui qu'est issu le Messie qui apporte le salut au monde entier. Je continue le texte. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'Esprit et en vérité. Versets 23-24. Dieu étant esprit, il n'est pas confiné à un seul lieu. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent par l'intermédiaire du Saint-Esprit, ayant compris que Jésus était la vérité de Dieu, l'échelle entre le ciel et la terre. Toutes les barrières rituelles mises en place par la loi de Moïse seront annulées par le sacrifice de Jésus-Christ, qui est l'accomplissement des institutions et des pratiques de l'Ancien Testament. Je continue. La femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi, qui te parle, lui dit Jésus. » Versets 25 à 26. Les Samaritains attendaient bien la venue d'un chef messianique, mais ils ne croyaient pas qu'il serait de la descendance du roi David, car ils n'acceptaient que les écrits de Moïse, c'est-à-dire les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Finalement, cette femme comprend une partie de ce que Jésus disait. En fait, elle attendait avec nostalgie le jour où le Messie éclaircirait tous les points obscurs de la religion des uns et des autres. Jésus lui dit alors sans détour, « Je le suis, moi, le Messie. » Cette affirmation est des plus majestueuses. C'est la seule fois, avant son procès, où Jésus affirme clairement être le Messie. Il déclare ouvertement qui il est vraiment à une femme paria, semi-païenne et de plus est aux mœurs légères. Une telle spontanéité, un tel franc-parler est inhabituel car Jésus cachait toujours son identité à cause de ses ennemis et de ses implications politiques. C'est pour cela qu'il préférait toujours utiliser le titre énigmatique de « Fils de l'homme ». Mais en Samarie, et avec une femme de surcroît, il n'y avait pas de danger qu'on le proclame roi à la tête d'une insurrection. Je continue. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu ? Ou pourquoi parles-tu avec elle ? Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville et le voilà qui se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Christ ?» Versets 27 à 29. Voilà que rappliquent les disciples avec tous leurs préjugés bien serrés dans leur petite tête. La femme, impressionnée par ce que Jésus avait dit sur lui-même, et les voyant arriver, s'enfuit à toutes jambes au village. Dans son enthousiasme, elle en oublie sa cruche, car il était maintenant plus important pour elle de partager sa foi nouvelle. Elle éveille la curiosité de ses contemporains de façon judicieuse. Elle n'a pas fait de déclaration dogmatique concernant Jésus, parce qu'elle savait fort bien qu'on ne verrait pas cela d'un bon œil, surtout de la part d'une femme, et au pédigré moins que parfait. Elle se contente de soulever une possibilité que les villageois feraient bien de considérer. Son affirmation « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait » a dû donner des sueurs froides à quelques-uns. Si le personnage qu'elle décrit sait de façon surnaturelle quel genre de vie elle a mené, il y a de fortes chances qu'il connaisse également le passé de tout le monde. Et ça, c'est inquiétant et demande une investigation dans les plus brefs délais. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Je continue. Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Verset 30. On ne sait pas exactement comment cette brave Samaritaine s'y est prise, mais en tout cas, elle a réussi un tour de force. Elle a suscité l'intérêt des villageois qui accourent en masse vers Jésus. La Samaritaine, quant à elle, croit personnellement que Jésus est le Messie. Nous verrons la suite de cette histoire la prochaine fois.